14h à Washington DC, Eric Manila Kiza avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Le vice-président du Mali, Assimi Goïta, a été visité samedi à Gossi dans le centre du pays. Les troupes engagées dans une opération conjointe avec la force française Barkhane, au cours de laquelle une frappe aérienne dimanche dernier a créé la polémique. Aujourd'hui, les résultats réalisés sur le terrain nous rendent très fiers. Ce sont des résultats très probants qui se sont soldés par la neutralisation d'un grand nombre de terroristes, la récupération d'armes et de guerre et surtout un lot important d'engins explosifs improvisés, a déclaré le colonel Goïta à la télévision nationale consultée par l'AFP dimanche. La ministre française des Armées, Florence Parly, a défendu dimanche les résultats obtenus par l'opération militaire anti-djihadiste française au Sahel. Madame Parly a rejeté avec force les soupçons de bavure entourant une récente frappe aérienne de la force Barkhane. Des témoignages locaux évoquant une frappe sur un mariage dans le centre du Mali. Parly assure n'avoir tué que des djihadistes depuis début janvier. La force conjointe du G5 Sahel et l'armée malienne mènent une opération appelée Eclipse dans la zone dite des trois frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso, et notamment dans le secteur de Douenza, Ombori, dans le centre du Mali. L'armée malienne revendique une soixantaine de terroristes neutralisés depuis le début de l'opération. Le vice-président américain Mike Pence assistera à la cérémonie d'investiture du président élu Joe Biden. On rapportait samedi plusieurs médias, mais le président sortant Donald Trump n'y participera pas. Le président élu Joe Biden a déclaré vendredi que Mike Pence est le bienvenu à la cérémonie, se réjouissant de l'annonce sur Twitter par M. Trump de sa propre absence dans un dernier tweet avant que son compte soit fermé. M. Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre devant les deux chambres réunies dans la nuit pour une session extraordinaire après une journée d'une violence à Washington. Une foule de partisans de Donald Trump avait envahi le Capitole, interrompant les débats. 5 personnes sont mortes dans ces violences que le président Trump est accusé d'avoir encouragées par ses déclarations. Les dirigeants démocrates ont exhorté Mike Pence à déclarer avec une majorité du gouvernement que Donald Trump était inapte à remplir ses fonctions sur la base du 25e amendement de la Constitution. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a promis d'agir si le président Donald Trump ne démissionnait pas immédiatement. Il pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une deuxième procédure de destitution. Le pape François a appelé dimanche les dirigeants et le peuple américain au sens des responsabilités après ces violences survenues mercredi au Capitole à Washington. Au moins 6 éco-gardes ont été tués dimanche dans une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga dans l'est de la RDC. Les Maïmaï ont tendu une embuscade aux éco-gardes dans le fin fond du parc vers Niamitwitwi. Le bilan provisoire est de 6 gardes des parquets tués et 2 Maïmaï sont tombés dans ces accrochages, a déclaré Alphonse Kambalé, fonctionnaire délégué du gouverneur dans le groupement de Niamilima. Le Soudan a annoncé dimanche ne pas pouvoir poursuivre les négociations illimitées avec l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage controversé construit sur le Nil par Addis Abeba après l'échec des derniers pourparlers. La semaine dernière, les trois pays concernés s'étaient mis d'accord pour tenir de nouvelles discussions dans l'espoir de parvenir à un accord sur la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Les derniers pourparlers qui se sont tenus début novembre s'étaient conclus sans avancée. Les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge le grand barrage de la Renaissance essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. L'Éthiopie avait annoncé le 21 juillet avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Les nouveaux pourparlers entamés la semaine dernière ont échoué à atteindre un accord acceptable pour reprendre les négociations sur le Niger, a rapporté l'agence d'État soudanaise.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions consacré ce soir à l'importance du vote religieux dans la présidentielle américaine. Eric Mandela Kidza avec vous, Lionel Lunanila Gaïma assure la mise en onde. La liberté de religion est inscrite dans la Constitution des États-Unis. Selon le premier amendement, il est interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion. L'article 6 rappelle et garantit le principe de la non-ingérence de l'État dans les religions et la liberté de culte. Mais n'empêche que les candidats démocrates et républicains convoitent le vote religieux. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, est avec nous. Bonsoir, ambassadeur.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes à Washington, D.C.
C'est ça.
Dans le Minnesota, nous avons le professeur Jean-Pierre Bongila. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous enseignez le leadership, n'est-ce pas?
D'accord.
Vous pouvez parler un peu de Lingala, vous saluez tous les deux.
Oh, Herman, Mbotenayo, Boni. Boni, ambassadeur. Vous êtes malamou?
Malamou.
Merci, Nayo. Boni, santé, Nabino, ambassadeur. Bonne santé.
Bonne année.
Merci. Selon une étude du Pew Research Center, 76% des Américains disent appartenir à une religion. Ambassadeur Cohen, c'est un électorat important, n'est-ce pas?
Très important, oui, bien sûr.
Professeur Mongila, comment se situent les églises et les religions dans la politique américaine en général et dans le projet politique des candidats en particulier?
Il faudrait peut-être aller vers l'histoire des États-Unis au début, quand les premiers émigrants sont arrivés aux États-Unis, quand ils ont fui l'Angleterre, en fait, c'était pour la recherche d'une liberté religieuse qui se sont retrouvés aux États-Unis.
C'est à partir du 18e siècle, n'est-ce pas?
Oui, c'est même un peu plus tôt, à partir du 17e siècle, qu'ils ont décidé de venir aux États-Unis dans le but de chercher à pratiquer leur religion. Et en fait, c'était une liberté de religion, ce qui est inscrit dans la Constitution américaine. Mais il y avait plus foncier que ça. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est un État théocratique basé plutôt sur le christianisme. Donc, dès les origines des États-Unis, il y a eu toujours cette pulsion chrétienne et religieuse dans l'homme américain, et ce qui se reflète dans la Constitution. Si bien que il y a eu comme une certaine tension au fur et à mesure dans l'histoire, il y a eu une certaine tension entre la religiosité, la place de la religion et la place de la laïcité. Donc il y a toujours comme cette tension-là. Et quand nous avançons au fur et à mesure, nous venons vers notre temps maintenant, nous nous rendons compte que les candidats à la présidence font un effort pour qu'ils s'alignent du côté de la religiosité, parce que, comme vous l'avez dit, il y a au moins 76% des Américains qui se disent encore religieux. Et quand nous parlons de religion, nous voyons de plus en plus la religion chrétienne, alors que nous avons d'autres religions, comme les musulmans, les juifs sont là, mais les chrétiens sont
bons aussi.
Les mormons, ah oui. Mais les chrétiens sont toujours la majorité dans ce pays-ci. Donc c'est normal que les candidats à la présidence s'attirent la sympathie de ceux qui sont dans la religion, qui pratiquent la religion, notamment les évangéliques, parce que les évangéliques sont plus nombreux que les autres dénominations chrétiennes, que par exemple les catholiques. Donc ils savent que leur population continue à pratiquer. Quand vous demandez aux Américains, il y en a combien qui pratiquent encore leur religion, et je pense que ce sera plus de 40%, 42%. Et là-dedans, vous voyez aussi beaucoup de Noirs, qui, au moins 87% de Noirs vont dans les églises chaque dimanche. Donc c'est normal, là où la population se trouve, c'est normal là où les gens pratiquent leur religion, on arrive à les atteindre pour qu'éventuellement le politicien octroie son, des droits. Donc c'est un peu ça.
Ambassadeur Cohen, voudriez-vous nous parler de la place de la religion dans la vie politique américaine?
Oui, la religion est très importante dans la vie politique parce qu'il y a un grand mélange de religions aux États-Unis. Il y a des chrétiens, mais parmi les chrétiens, il y a beaucoup de différents groupements. Et aussi, il y a des juifs et des musulmans. Et aussi, de plus en plus, des religions asiatiques maintenant, parce qu'il y a une grande immigration venant de l'Inde et de Pakistan. Donc, il y a un grand nombre de gens qui pensent, qui font leur politique avec une vision religieuse. Et il y a beaucoup de gens qui sont plutôt laïcs dans leur pensée politique. Donc, c'est un grand mélange. Je crois que le plus important groupement au point de vue politique sont des évangiles, des chrétiens évangiles, parce qu'ils ont des dirigeants qui voudraient influencer la politique. Et c'est surtout pour la question d'avortement. L'avortement a été légalisé par la Cour suprême il y a 30 ans. Et depuis, les évangiles luttent fortement pour changer la loi, pour changer la constitution, pour faire l'avortement hors la loi. Et entre-temps, ils font tous pour faire l'avortement de plus en plus difficile pour des femmes, c'est-à-dire la réglementation dans les hôpitaux, etc. Donc, pour certains groupements religieux, la politique joue un grand rôle. Pour d'autres, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un grand mélange aux États-Unis.
Est-ce que les évangéliques constituent, disons, l'électorat clé du Parti républicain, votre parti?
Je crois que la réponse est oui. Surtout maintenant avec Donald Trump. Quand le mot d'ordre est venu, il faut soutenir Donald Trump parce qu'il est contre l'avortement, il est contre la corruption à Washington. La plupart des Américains qui sont évangéliques, surtout dans la région du sud des États-Unis, ils ont tous voté pour Trump. Donc, les évangéliques sont une grande base pour la popularité de Trump, à mon avis.
Professeur Bonguila, est-ce que les évangéliques aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire que le poids des républicains pèse énormément au sein de cette classe des chrétiens américains?
La réponse est oui, et l'ambassadeur l'a si bien dit. Le président américain, ou les candidats, depuis très longtemps, je dirais même depuis le XXe siècle, ont misé sur les voix des évangéliques. Parce que, comme on l'a dit, s'il y a 87% des Américains qui croient en quelque chose, et s'il y a 67% de chrétiens, il y a au moins 50% des évangéliques. Et alors ça, c'est une très grande majorité, et pour la plupart, à cause justement des faits comme l'avortement et d'autres, ils ont toujours voté en faveur des républicains qui maintiennent ça comme valeur, l'avortement comme valeur, le manque d'avortement comme valeur, et qui maintiennent d'autres valeurs économiques et tout ça. Donc, en général, et puis quand nous parlons d'évangéliques là, parce qu'il y a des évangéliques noirs, mais ici nous parlons surtout ceux-là dont l'ambassadeur parlait, c'est plutôt des évangéliques blancs qui, eux, presque à 100%, votent en général les républicains et qui, à 87%, ont voté pour Donald Trump en 2016. Maintenant, ça a baissé un tout petit peu. Je crois qu'il parle de 81% qui ont voté pour, ou un peu moins, qui ont voté pour Donald Trump. Donc ça a été dans leurs habitudes de pouvoir voter pour les républicains parce qu'ils voient que ce qu'ils défendent, les valeurs qu'ils défendent, les républicains, les candidats républicains défendent ça aussi. Donc oui, la réponse est oui.
Ambassadeur, quels sont les autres enjeux moraux et sociaux qui sont étroitement liés à votre religieux?
Oh, il y a plusieurs questions. Il y a la question de mariage entre des gens du même sexe, n'est-ce pas? Le mariage homosexuel. Il y a un nombre grandissant de mariages homosexuels et je crois que dans 50 États maintenant, c'est légal pour un homme d'épouser un autre homme et pour une femme d'épouser une autre femme. Et certains groupements religieux n'aiment pas ça, n'est-ce pas? C'est contre la Bible. Ils luttent contre ça. Et je vois souvent des cas des fonctionnaires, par exemple. Si vous voulez faire un mariage hors de l'Église, vous allez à la mairie, comme on fait en France par exemple, vous allez à la mairie pour vous marier, et de temps en temps il y a des fonctionnaires qui disent je refuse de faire un mariage entre des homosexuels, et ils refusent parce que à cause de leur point de vue religieux. Et il y a aussi des questions des écoles, par exemple aux États-Unis tout le monde a le droit de faire une école basée sur la religion. Pas toutes les écoles sont des écoles de l'État. Il y a un certain pourcentage qui sont privées. Et parmi les écoles privées, il y a des écoles organisées par les religions. Surtout aux États-Unis, la plus grande sont des catholiques. Dans tous les quartiers, dans toutes les villes, il y a des écoles catholiques. Et eux, ils demandent les subventions. Ils disent, l'État donne des subventions, l'État paye, finance les écoles publiques. Nous voulons aussi être subventionnés. Donc, beaucoup de secteurs, les groupements religieux demandent l'aide de l'État, le soutien de l'État, et l'État refuse parce que la Constitution dit l'État n'a pas le droit de faire l'ingérence dans la religion. Donc, il y a toujours une lutte entre les gens qui veulent que l'État fasse des choses pour les groupements religieux et les gens qui sont contre.
Professeur Bongida?
Oui. Effectivement, il y en a beaucoup. Ce qu'il a cité là, c'est quelques-uns, mais j'irai vers des exemples peut-être plus concrets pour adhérer un peu à ce qu'il a énuméré, notamment le cas des homosexuels, le cas de l'avortement et les cas des prières dans les écoles. Mais il y a un exemple où c'était clair qu'à San Francisco, il y avait un groupe d'homosexuels qui avait décidé de défiler parce que c'était leur anniversaire. Et l'Église catholique a dit non, vous ne pouvez pas défiler parce que c'était le jour de Pâques, c'est le jour le plus sacré pour nous. Et donc l'Église catholique avait été menacée, tel que l'État voulait retirer la subvention qu'elle donne à l'Église pour Catholic Charities. La conclusion était finalement claire que l'Église devait trouver un moyen pour ne pas offenser les homosexuels qui marchaient ce jour-là. Et en fait, la conclusion, c'était que les églises étaient presque vidées parce que les gens sont allés voir les homosexuels en train de marcher. Donc, il y a cette influence-là de l'État, sur, d'une manière ou d'une autre, sur la religion, même pas de manière très explicite, mais l'influence est là, surtout dans les cas comme religion, prière dans les écoles. Si jamais vous recevez quelque chose de l'État, vous recevez quelque chose du gouvernement fédéral, vous devez aussi obtempérer aux normes, aux décisions de l'État ou du gouvernement fédéral. Autrement, la subvention que vous recevez, que ce soit l'aide pour les étudiants, pourrait vous être retirée d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quand même une danse assez difficile pour des organismes, je dirais, laïcs ou privés, ou surtout les organismes, organisations non gouvernementales. C'est une danse, et surtout s'ils sont religieux, des organismes religieux, c'est très compliqué pouvoir maintenir vos valeurs morales, mais en même temps aussi adhérer à ce que l'État est en train de vous demander de faire. Non, c'est une danse compliquée, mais c'est pour dire qu'il y a toujours cohabitation de l'État et la religion aux États-Unis.
Vous écoutez le dialogue des religions, Eric Manirakiza avec vous ce soir. On parle de l'importance du vote religieux dans la présidentielle américaine. Restez branchés. Avec l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, et le professeur Jean-Pierre Bongida depuis le Minnesota. La religion n'est pas un pouvoir, mais il peut rendre possible nos pouvoirs politiques.
Oui, parce que nous le voyons bien. Sans les évangéliques, par exemple, il serait difficile de penser à le premier mandat de Donald Trump. Il serait difficile de penser aux autres mandats des républicains qui ont eu le pouvoir comme président. Donc, ça devient une force. Et pendant les 4 ans ici où Donald Trump était au pouvoir, il a tout fait pour plaire aux évangéliques parce que c'était sa base la plus importante en matière politique. Il a tout fait pour que, par exemple, leur plaire en ce qui concerne certaines lois, les les juges, par exemple, de la Cour suprême, et maintenir le fait que l'avortement, c'est quelque chose qu'il faudrait bannir, maintenir à distance les droits des homosexuels, simplement pour plaire à sa base, qui est une base évangélique. Donc, c'est une force. Sans cette force-là, il est difficile d'accéder au pouvoir, et ça, on le sait. Donc, même s'il y a séparation de pouvoir, séparation entre le pouvoir et la religion, mais nous savons qu'il y a interférence. Et donc, la religion a un poids assez sérieux vis-à-vis de la politique, parce que c'est la religion, ceux-là même qui pratiquent cette religion, qui vont voter et qui feront en sorte qu'il y ait un président qui est de leur obédience et qui, d'une manière ou d'une autre, leur pourvoit de certains bénéfices aussitôt qu'il devient président de ce pays. Donc il y a cette interférence-là qui est importante et qui continue à exister, oui.
Monsieur Cohen, votre réaction ?
Oui, il y a plusieurs secteurs où la religion est très importante. Et comme ancien diplomate, je voudrais dire quelque chose sur les affaires étrangères. Il y a deux grands exemples. Par exemple, il y a 20 ans, il y avait une guerre en Angleterre. Les catholiques d'Irlande du Nord, qui est un territoire anglais, attaché à Irlande du Sud, qui est un pays indépendant. Les catholiques d'Irlande du Nord voulaient rejoindre Irlande du Sud et ils ont fait la guerre. C'était une vraie guerre civile. Dans l'Irlande du Nord, il y avait des attentats, des explosions, toujours il y avait du terrorisme. Et ça a joué un grand rôle aux États-Unis parce que les catholiques américains ont cotisé et ils ont envoyé beaucoup d'argent aux catholiques d'Irlande du Nord pour appuyer ces gens-là. Surtout les Américains d'origine irlandaise. Il y en a beaucoup, surtout en Nouvelle-Angleterre. Ils ont beaucoup cotisé. Deuxième exemple, Israël. Les Juifs des États-Unis, ils sont quelque chose comme 2% de la population, mais ils sont en général très pro-Israël. Et comme les catholiques de Nouvelle-Angleterre, ils cotisent beaucoup pour soutenir Israël. Et les politiciens, ils sont très sensibles. Et Donald Trump lui-même a beaucoup appuyé Israël parce qu'il vient de New York où il y a beaucoup de juifs qui habitent là. Et il cherchait l'appui des juifs, de la communauté juive. Donc, c'est pas seulement dans le secteur intérieur, mais aussi dans les affaires étrangères que la religion joue.
On parlait des enjeux de la religion, c'est que beaucoup de candidats, ou tous les candidats, essaient de cajoler cet électorat. Mais on a vu, par exemple, qu'en 2012, Barack Obama a tenté d'inclure le mot controversé, Dieu, dans le programme officiel du Parti démocrate à la convention de Charlotte, mais il n'a pas eu massivement d'électorat religieux. On a vu que en 2020, le président Donald Trump a eu beaucoup de soutien de la part de la famille Graham. Il a perdu Obama, il a gagné toutefois en 2012. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres facteurs qui finalement peuvent diluer le poids religieux sur le choix du candidat, Jean-Pierre?
Oui, absolument. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont mis en jeu. La religion elle seule ne suffit pas parce qu'il y a des gens qui peuvent être évangéliques, catholiques et tout ce qu'ils peuvent être, mais malgré leur religion, ils trouvent toujours d'autres points pour sur lesquels s'appuyer et pour voter le candidat de leur choix. Dans la religion, c'est un atout, mais il y a autre chose aussi, il y a leur foi personnelle. Certains faits que les candidats leur proposent, certains problèmes que les candidats proposent, et les gens font des choix judicieux. Mais la religion, c'est une force, c'est sûr. Mais aussi le fait même de, comme nous parlons des évangéliques, j'ai insisté ici que la plupart des évangéliques qui ont voté pour Trump et peut-être d'autres républicains dans le passé, je dis peut-être dans le passé, ont été en général des évangéliques blancs. Nous avons des évangéliques noirs aussi. Mais pour ces
ce qui est donc des élections, la religion seule ne suffit pas, il y a aussi la race qui compte dans tout ça. Il y a des hispaniques, même quand vous parlez des évangéliques, vous parlez des catholiques. Ce n'est pas tous les catholiques qui vont voter pour Biden parce qu'il est catholique. Là-dedans, il y a des divisions. Et dans ces divisions-là, vous voyez par exemple que la majorité des catholiques blancs vont voter pour Biden. Pourtant, nous avons encore des catholiques hispaniques qui sont de plus en plus nombreux et qui sont divisés. Certains d'entre eux deviennent aussi évangéliques et ils votent pour un candidat républicain. Donc, il y a ça qui joue. Mais le fait de la race est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas absolument négliger. Obama est venu comme quelqu'un de race mixte, mais il était plutôt noir, comme nous le savons d'après l'histoire. Une goutte de sang noir, ça te fait de toi un noir. Donc, les noirs se sont vraiment vus en Obama et ils ont pour la plupart préféré voter pour lui. Donc, il y a ça. Et donc, la race est importante quand nous parlons du choix, mais il y a aussi d'autres problèmes. Mais je pense que la religion pourrait être numéro un, la race pourrait être numéro deux ou vice-versa. Sans compter le problème même que les problématiques que les candidats soulèvent. Quand vous parlez de l'avortement, quand vous parlez des homosexuels, un catholique qui veut voter ne va certainement pas aller en faveur de Biden parce qu'il se dit que Biden est en train de supporter l'avortement, il est en train de supporter l'homosexualité, ils ne vont pas voter. Donc il y a tout ça, cet aspect-là, malgré la religion, mais il y a d'autres aspects qui font que les gens votent différemment.
En 2012, le président Obama, il a remporté les voix des catholiques latinos à 75% et des juifs à 69% selon des chiffres disponibles. Ambassadeur Cohen, en 2012, il y avait un conservateur sur le ticket présidentiel, Paul Ryan, qui a été le président de la Chambre des représentants. Ça n'a pas suffi à Mitt Romney pour remporter l'élection.
C'est vrai, Mitt Romney vient de groupement mormon qui sont centrés dans l'ouest des États-Unis, dans l'État de Utah, Wyoming, Arizona. Et les mormons ont certaines idées et qui ne plaisent pas à tout le monde. Jusqu'à il y a 30 ans, les mormons étaient polygames, n'est-ce pas? Il y a toujours des communautés un peu caché dans l'Arizona où il y a des familles avec un mari et plusieurs femmes qui vivent en cachette. Donc il y a beaucoup d'idées différentes. Les hispanophones sont presque 100% catholiques, mais ils sont assez conservateurs, ces hispanophones. Ils n'aiment pas, bien sûr, ils n'aiment pas l'avortement, ils n'aiment pas les mariages homosexuels. Donc, vous avez des hispanophones qui sont des Noirs, n'est-ce pas? Et vous avez des Noirs qui sont anglophones, qui votent tout à fait différemment. Historiquement, les catholiques étaient toujours démocrates, mais depuis 20 ans maintenant, les catholiques changent plutôt vers les républicains, surtout à cause du problème d'avortement. L'Église catholique et les prêtres tous les dimanches, ils prêchent contre l'avortement et ça a un grand impact sur la politique.
Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Parce que Joe Biden, c'est quelqu'un qui soutient l'avortement, qui soutient le mariage homosexuel, mais qui a eu 8 millions de voix de plus.
À mon avis, ça montre qu'il y a un changement de génération. Les gens, les Américains qui ont un âge plus jeune que 40 ans, ils ont une tendance à être beaucoup plus laïcs, moins religieux. Et ils votent une sorte de pragmatisme. Ils sont pour la liberté, pour la femme de diriger son propre corps, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça qui a gagné pour Biden. Les jeunes ont voté pour lui malgré leur religion.
Donc vous voulez dire qu'au niveau religieux, il y a eu une évolution, mais au niveau politique, il y a des politiques qui ne suivent pas cette évolution?
C'est ça. Aussi, dans les primaires, les grands politiciens noirs ont soutenu Biden. Et ça continue dans la grande élection Biden contre Trump. Trump est considéré dans la communauté noire et aussi dans un grand élément de la communauté hispanophone d'être un raciste. Et il a fait même des remarques, dans ces discours qui sont interprétés comme racistes. Et ça a fait beaucoup de tort à Trump dans l'élection, surtout chez les Noirs qui ont voté massivement pour Biden, et aussi pour les hispanophones qui ont voté moins massivement que les Noirs, mais quand même ils ont voté en majorité pour Biden.
Nous arrivons au terme de cette émission de Dialogue des religions. On parlait de l'importance du vote religieux dans la politique américaine, dans les élections américaines. Merci beaucoup à l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci, ambassadeur.
Je vous en prie, plaisir pour moi.
Merci au professeur Jean-Pierre Bonguila, qui se trouve dans le Minnesota. Merci beaucoup.
Merci, Eric.
Eric Manilakis a été avec vous. Lionel Ronanila Gaïma a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.